Donc, je vais vous faire une présentation qui peut-être va vous surprendre. Donc, moi, je suis psychiatre et je suis médecin de santé publique, épidémiologiste. Donc, je vais vous présenter une approche épidémiologique de la question de la difficulté au travail et de la souffrance au travail des enseignants. Alors, un des sujets de recherche pour nous est cette question de la surmorbidité psychiatrique que j'ai appelée mythe ou réalité. Donc, pour vous donner une idée un peu de la perspective de notre travail, la première enquête qu'on a faite, c'est faite en 1986. On l'a faite dans la région Midi-Pyrénées. Donc, on pratique toujours de la même façon. On tire au sort des échantillons de mutualistes de la MGEN. On leur envoie des questionnaires. On informatise les questionnaires et on fait des analyses. La deuxième enquête dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui a été faite en 99-2000 et on vient de mettre en place une cohorte en 2005 qui, elle, va être une cohorte, c'est-à-dire ce sont des personnes qu'on va suivre tout au long de leur chemin, sachant qu'on va envoyer des questionnaires à peu près tous les 5 ans et puis que tous les 5 ans, on va remettre dans l'échantillon du sang neuf, si je puis dire, c'est-à-dire des personnes nouvellement arrivées à la MGEN. Alors, dans cette toute première enquête, par exemple, on demandait aux gens... qu'est-ce que vous craignez le plus au niveau professionnel ? Et on voit que, en milieu enseignant, les problèmes de santé mentale sont vraiment quelque chose qu'on craint. Et je m'aperçois, pour être souvent en contact avec la presse et connaître un petit peu le milieu, que les gens sont absolument persuadés que les enseignants ont plus de problèmes de santé mentale que les autres. Et quand je dis les gens, c'est les journalistes, mais c'est les enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire, ça fait partie des risques qu'ils redoutent et ils sont quand même, la plupart du temps, assez persuadés et tout le monde a une histoire d'un collègue, de plusieurs collègues qui ont eu des difficultés et des problèmes de santé mentale. J'ajouterais aussi, moi qui suis épidémiologiste, une énorme connerie qui est très bien véhiculée, qui est qu'une des preuves de la surmorbidité psychiatrique des enseignants en France serait l'ouverture par la MGEN de l'hôpital de la Verrière. Ce que je trouve, en tant qu'épidémiologiste, je veux dire, quand les gens me disent ça, mais bien entendu, me disent les journalistes qu'ils ont plus de problèmes, la preuve, ils ont ouvert un hôpital psychiatrique. Alors, j'ai beau leur expliquer quand même, il y a 40 ans, c'était tout à l'honneur de la MGEN d'avoir envie d'éviter la dichotomie hôpital public, un peu asilaire versus clinique privée et de faire quelque chose qui était justement en fonction des, on peut dire, des pratiques les plus intéressantes de l'époque qui était la psychiatrie institutionnelle dans un cadre architectural qui était assez intéressant qui est l'hôpital de la Verrière et puis qui évitait aussi aux enseignants qui sont quand même des gens à haute visibilité de se retrouver soignés pour un problème de santé mentale au nez, au-dessus de tout le monde et de pouvoir faire ça, entre guillemets, peut-être d'une façon plus distanciée de leur public. Mais ça n'a jamais signifié au niveau épidémiologique une surmorbidité. Ce n'est pas parce que la MGEN s'est intéressée à la santé mentale que, d'ailleurs, on pourrait pousser le raisonnement par l'absurde. On a des hôpitaux de jour dans 6 villes. Donc, est-ce que ça veut dire que dans les autres, il n'y aura pas de problème de santé mentale ? Donc, je pense que vous faites partie d'une ville. Ah non, Lyon, on en a un, je suis désolée. Mais on pourrait, il y a peut-être autour de vous des gens. Grenoble, on en a aussi. Si, mais peut-être quand même on pourrait trouver une ville. Voilà. Donc, ceci dit, ça vous fait rire, mais c'est quand même des choses qui sont dites. Enfin, je veux dire, je ne les ai pas inventées. D'ailleurs, j'inventerai jamais une chose pareille, je dois dire. Donc, c'est assez étonnant comme les gens sont persuadés qu'il y a plus de problèmes de santé mentale chez les enseignants. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça m'a beaucoup frappée. Donc, je vais essayer de répondre un peu à cette question, entre autres, en vous présentant deux enquêtes. Une première enquête, qui est donc un échantillon national mutualiste de la MGEN, où on a environ, on a envoyé des questions à 10 000 personnes, on a eu un taux de retour de 66,5%, ce qui est extrêmement important pour une enquête postale. Je vais vous parler de la possibilité justement de comparer des enseignants avec un groupe contrôle et je vais ensuite faire des comparaisons à l'intérieur des enseignants parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que quand on dit enseignant on navigue très très large, c'est-à-dire on met dans le même sac des gens qui en fait font pas du tout les mêmes métiers. pour ne pas dire qu'ils n'ont en plus pas les mêmes caractéristiques, par exemple, de répartition par sexe, ce qui fait une énorme différence en matière de santé mentale. Les prévalences des choses ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes. Et quand vous comparez des enseignants du supérieur où il y a 80% d'hommes avec des enseignants de maternelle où il y en a 20%, rien que ça est une aberration épidémiologique. Donc, c'est vraiment important de regarder comment est-ce qu'on peut comparer la santé à l'intérieur des enseignants. Et une deuxième enquête donc, qu'on a fait conjointement avec l'INRP qui s'est faite dans quatre académies dont la taille de l'échantillon est moins impressionnante, mais dans lequel on a pu étudier le syndrome d'épuisement professionnel qui s'appelle en bon français burn-out. Et je m'appliquerai dans la deuxième partie de ma présentation à vous présenter le concept du burn-out et comment est-ce qu'on peut appliquer le burn-out à la profession enseignante. Alors donc, le paradoxe des études épidémiologiques sur les enseignants, c'est qu'on a fait une revue de littérature mondiale sur à peu près tous les gens qui avaient essayé d'étudier la santé mentale chez les enseignants. Donc, il n'y a pas de discussion, tous les enseignants à qui on demande « êtes-vous stressés ?» répondent qu'ils sont très stressés. Donc, ils sont très stressés, mais le stress n'a jamais été une maladie mentale. Le stress, c'est le stress. Le problème de ces études, c'est qu'en général, il n'y a pas de groupe contrôle. C'est-à-dire, les enseignants disent qu'ils sont très stressés, mais on n'a pas été comparé avec les contrôleurs du ciel, les gens qui n'ont pas d'emploi. Il y a des tas de raisons, les gens dans les urgences. Enfin, je veux dire, il y a des tas de métiers qui sont les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus. Enfin, je peux vous énumérer les policiers. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont stressés, il y en a beaucoup. Donc, évidemment, vous voyez, ce n'est pas un argumentaire, en tout cas dans la problématique que je suis en train de suivre, pour dire qu'il y aurait plus de santé mentale parce qu'il y aurait plus de stress. Alors, si on regarde les études un peu sérieuses qui sont données les moyens de mesurer les diagnostics de dépression et d'anxiété au sens maladie et non pas au sens état, on va dire, de dépressivité, on voit qu'il n'y a aucune surmorbidité quand on considère la dépression ou les troubles de l'anxiété, comme j'ai mis entre guillemets, maladie. Donc bon, je ne vais pas vous m'étendre exagérément sur le concept de santé mentale, mais je pense que c'est important de voir que nous, en épidémiologie psychiatrique, on peut étudier différents concepts de la santé mentale. On peut étudier la détresse psychologique, et d'ailleurs, dans notre enquête, il y avait une mesure de la détresse psychologique, et je vous montrerai quelques résultats. Et puis on peut étudier des diagnostics psychiatriques. Donc, ce que nous, on appelle les diagnostics psychiatriques, on n'invente rien, on prend les classifications internationales qui elles-mêmes sont critérisées. Et par exemple, quand on vous dit que quelqu'un est déprimé, ce n'est pas « il nous a dit qu'il était déprimé ». C'est « pendant une période de 15 jours, il avait perdu, il avait constamment été triste, plus pendant cette même période de 15 jours, il avait perdu du poids sans le vouloir, au moins 5 kilos, plus il pensait qu'à la mort, plus, etc. » Donc, on a 6 ou 7 critères diagnostiques qui correspondent vraiment à ce que le monde de la psychiatrie va considérer comme quelqu'un qui a vraiment un problème qui peut-être va nécessiter des soins. Donc on n'est pas dans une déclaration de la dépression. D'ailleurs, en 1986, j'avais fait des enquêtes comparatives sur ce fait de déclarer qu'on se sent déprimé dans la population de la MGEN. Et je l'avais comparé à une autre population complètement différente qui était à l'époque l'enquête INSEE sur les défavorisés. Et c'était très intéressant parce que quand on regardait, par exemple, le nombre de personnes de la MGEN qui se déclaraient déprimées et qu'on comparait dans la même enquête la liste des symptômes que nous pouvons nous articuler pour ressembler à un diagnostic psychiatrique, énormément de gens se sentaient déprimés sans correspondre aux critères diagnostiques de dépression. Quand on prenait une population beaucoup plus défavorisée, on avait une tendance complètement inverse. C'est-à-dire, les gens se disaient pas déprimés, mais quand on regardait, ils avaient envie de rien, ils dormaient pas, ils avaient pas d'appétit, ils pleuraient toute la journée, ils avaient envie de se suicider. Mais eux, ils appelaient pas ça de la dépression. Ils se disaient, dans l'état où on est, somme toute, d'avoir envie de rien, c'est bien normal. Donc, je veux dire, il y a comme ça une sensibilité par rapport aux problèmes de santé mentale qui est très différente suivant les cultures, et on le sait très bien. Ça a d'ailleurs de l'impact sur la demande de soins. C'est pas complètement notre sujet aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que les données que je vais vous montrer, je n'ai pas demandé aux gens de s'auto-déclarer déprimés. C'est soit j'ai mesuré leur détresse psychologique, qui n'est pas de la maladie mentale, soit j'ai mesuré le burn-out, l'épuisement professionnel, et je vais vous montrer comment je l'ai mesuré, soit j'ai pris un instrument diagnostique standardisé, qui en l'occurrence est le CIDI, Composite International Diagnostic Interview, qui est donc un standard dans notre discipline, qui est destiné à faire des diagnostics. Donc, c'est important de clarifier ces concepts pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que je vais vous présenter. Alors pourquoi est-ce que il y a cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire d'un côté des gens qui sont très stressés et qui considèrent que probablement ils ont plus de problèmes de santé mentale que les autres, et puis de l'autre, en fait, on trouve aucune surmorbidité. Bon, moi j'ai quelques explications en tant qu'épidémiologiste, c'est que donc comme je vous ai dit, dans les études concernant le stress, il n'y a pas de groupe contrôle, donc c'est très difficile de savoir si ce stress est plus élevé que d'autres professions, sans parler de ceux qui sont sans emploi. Si on prend un plan purement de psychiatrie sociale, on va dire, nous, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il n'y a aucune raison pour que les enseignants aient une surmorbidité psychiatrique. C'est une population de classe moyenne qui a une certaine stabilité de l'emploi. Donc, sociologiquement, en principe, elle est protégée. Enfin, quand on regarde un peu les écrits sur la psychiatrie sociale, on voit qu'il y a quand même une corrélation non négligeable entre la classe sociale, par exemple, et la prévalence des principaux problèmes, en tout cas dépression, anxiété, troubles avec l'alcool. Donc, a priori, ce n'est pas une population à risque. Alors, il y a d'autres mécanismes qui sont très importants quand on commence à travailler sur santé mentale et profession. C'est la question, et qui est valable d'ailleurs pour toutes les professions. Par exemple, pour faire une parenthèse, les médecins ont un taux de suicide particulièrement élevé, par exemple, ce qui n'est pas le cas des enseignants. Quand on commence à comparer des professions, il y a tout un travail sur la comparaison de la santé mentale des professions. Il y a cette question qui est toujours très compliquée de l'autosélection. En d'autres termes, les gens ne tirent pas au sort leur profession. Par exemple, si vous voulez être un enseignant, déjà il a fallu pouvoir poursuivre des études relativement poussées. Donc ça veut dire un certain nombre de problèmes de santé mentale assez sévères qui vont arriver au moment de l'enfance ou de l'adolescence, vont déjà faire sortir de la catégorie des personnes parce qu'ils ne vont jamais arriver jusqu'au bac. Et ils vont encore moins arriver après. Ensuite, donc ça veut dire que une grande partie des problèmes psychiatriques les plus sévères, de toute façon, les gens vont être dans des situations où ils ne vont pas arriver jusqu'aux études qui permettent d'être dans cette profession. Et je ne parle pas, bien entendu, des raisons de choix de la profession. Mais il y a déjà un fait brutal, j'ai envie de dire, que pour être un enseignant, il faut quand même avoir une santé mentale qui vous permettait de suivre des études relativement poussées, d'accepter un certain nombre de conformités sociales, donc ce qu'on appelle dans notre jargon les personnalités antisociales, ça va être difficile, les gros problèmes de drogue et d'alcool, ça va être difficile, les problèmes délirants, ils ne vont pas arriver jusque-là. En tous les cas, il y a donc au fond une espèce de, on va dire, d'auto sélection naturelle qui fait qu'a priori on ne s'attend pas qu'il y ait une probabilité plus élevée d'avoir ces problèmes de santé mentale. Et puis il y a peut-être aussi des mécanismes de compensation adéquats, un certain nombre de vacances, la visibilité de la profession, des possibilités de répit et ce que j'ai appelé une sociabilité bien organisée. On a pas mal de questions sur la vie associative, la vie culturelle, etc. Et on voit que c'est un corps professionnel, on va dire, qui dans son ensemble a une vie sociale qui est plutôt plus élevé, on va dire, que la moyenne de la population. Alors, première enquête, donc une enquête sur, je vous rappelle qu'à la MGEN, il y a environ 60% d'enseignants. Donc, on a fait un échantillon national de 10 000 mutualistes de 20 à 60 ans. On a fait 3 rappels, on a eu un taux de 66,5%. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est la question du groupe contrôle. Donc, comme je vous ai dit, les gens, on leur envoie des questionnaires en disant « êtes-vous stressés ?» Mais en fait, est-ce qu'ils sont plus stressés, moins stressés ? On n'en sait rien du tout. La plupart des enquêtes de population ont beaucoup de mal avec cette question. Parce que quand vous faites une enquête de population générale, mettons, on se met en région lyonnaise, on vient de le faire d'ailleurs, on vient de faire une enquête pour la Direction générale de la santé dans 5 régions en France, dont la région Rhône-Alpes, où on vient de tirer 5000 personnes, c'est impossible de dire quoi que ce soit sur les enseignants. Je veux dire, moi, sur 5000 personnes, la MGEN, on est 2,5% de la population, donc je veux dire, peut-être au maximum, je vais avoir 50 malheureux enseignants, enfin, je veux dire, je n'ai jamais rien pouvoir dire là-dessus. Donc, quand on fait des enquêtes de population, même avec des tailles d'échantillons qui sont loin d'être négligeables, la plupart des professions sont au fond très peu représentées. Parce que c'est un grand, on va dire, on a un échantillon, un éventail très très large de professions. Donc il y a cette fameuse question du groupe contrôle, c'est à quoi vont-on comparer les enseignants ? Donc il faudrait les comparer à des gens entre guillemets comparables, on va dire au niveau du statut de l'emploi, du statut social, à peu près du niveau d'études. Et l'intérieur donc des mutualistes de la MGEN est quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on a d'un côté ce que vous appelez enseignants devant élèves, et de l'autre côté, on a déjà tout le personnel des écoles qui n'est pas devant élèves. Et puis, on a le CNRS, l'INSERM, le ministère de la Culture. En tous les cas, on a des gens qui sont quand même pas complètement différents de ce qu'est un enseignant au niveau sociologique, mais qui n'est pas ce qu'on appelle enseignant devant élève. Donc, cette possibilité de groupe contrôle est assez intéressante, parce que justement, on va pouvoir un peu comparer quel serait ce facteur de risque d'être justement un enseignant devant élève. Malheureusement, dans cette enquête-là, on n'a pas mesuré le burn-out, donc je n'ai pas de données là-dessus. Alors, la deuxième enquête dont on va parler, c'est donc l'enquête qu'on a faite avec l'INRP. Donc ça, c'est différent. C'est 530 enseignants qui travaillaient dans 8 établissements scolaires, collèges et lycées. Mais le taux de réponse a été beaucoup moins bon, puisqu'il est de 35%. Alors, je vois que mon transparent, c'est un peu galère. On a environ, on va dire, 150 enseignants. Donc, on en a quand même beaucoup, beaucoup moins. Par contre, là, c'est une population plus homogène, puisque c'était collèges et lycées, et ça n'était que des enseignants. Là, on a bien mesuré les facteurs de risque de stress professionnel, dont l'épuisement professionnel. Et puis, comme je vous disais, on vient de mettre en place une étude de cohorte au niveau national sur la santé physique et mentale, sur, en fait, on va voir 15 000 mutualistes. On va utiliser énormément de questions sur à la fois la santé mentale et l'épuisement professionnel, et puis des mesures beaucoup plus standardisées concernant le travail comme le CARASEC, qui vont permettre de comparer la profession enseignante à plein d'autres professions sur lesquelles cette échelle qui essaye de décrire un peu la tâche, son niveau de contrainte, son niveau de responsabilité, les rapports entre l'autonomie versus la créativité, enfin c'est une échelle qui est très connue et qui a été appliquée à beaucoup d'autres professions. Donc on va pouvoir comparer le métier d'enseignant, on va dire, décliné dans ces différents contextes avec beaucoup d'autres professions. Alors voilà quelques résultats. Donc si on compare, voilà les rubriques du questionnaire, juste pour vous donner une idée, on a des données sociodémographiques, on a la formation, les diplômes, la profession, le lieu d'exercice, la motivation du choix de la profession, les satisfactions aux difficultés professionnelles, on a des données sur la santé physique, on a des données sur la santé mentale, comme je vous ai dit, on a des données sur le parcours de soins. Alors, je ne sais pas si on voit bien, je ne me rends pas compte, mais enfin bon, voilà. Donc ça, c'est, et puis, excusez-moi, ils sont en anglais, parce que bon, ben, ça sort d'une publication en anglais, mais enfin, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est épisode dépressif majeur, ça c'est sur toute la vie, ça c'est sur un an. Alors là, on regarde les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, si vous regardez femmes sur hommes, ben, c'est ce qu'on s'attend, c'est-à-dire que les femmes, si on prend épisode dépressif majeur, leur chance statistique d'être plus déprimée que les hommes, elle est multipliée par 2. Donc c'est évident, si vous prenez une population féminine et vous la comparez avec une population très peu féminine, vous trouverez toujours plus de dépression. Ce n'est pas parce que c'est des enseignants, c'est juste parce qu'il y a plus de femmes. Et ça, malheureusement, c'est une donnée assez constante. Si vous prenez l'âge, c'est assez intéressant de voir que les personnes au-dessus de 50 ans n'ont pas un risque plus élevé que celles qui ont moins de 40 ans, on va dire, ni celles qui ont entre 40 et 49 ans. Donc, contrairement à ce que beaucoup de choses se disent, nous, on ne trouve pas, pour ce qui est des problèmes de la dépression, de différence entre les différentes classes d'âge, du moins faites comme on les a fait. Le statut marital. Alors là, le statut marital, c'est une affaire sérieuse. C'est-à-dire, quand les gens sont seuls, c'est multiplié par 1,5. Quand ils sont séparés ou divorcés, si on prend lifetime, c'est multiplié pratiquement par 2. Donc on voit que le statut, si on prend toujours lifetime, le fait d'être veuf aussi multiplie le risque relatif. Donc on voit bien que le statut matrimonial est aussi quelque chose de très important. Donc si on continue mon raisonnement, vous prenez une population féminine dans laquelle il y a beaucoup de veuves et de divorcés, et séparés, bah vous allez avoir une surmorbidité, ça c'est certain. Mais pour l'instant, on nous avait dit que c'est parce qu'ils étaient enseignants. Alors ensuite, on prend évidemment un facteur très important quand on considère cette population, qui sont les niveaux de diplôme. Et là, ce qu'on voit en tous les cas sur Lifetime, c'est que les gens qui ont plus de 5 ans d'études universitaires ont des risques moins élevés que ceux qui ont juste le niveau baccalauréat, mais on voit bien, nous, dans nos données, que les professeurs d'université ont plutôt moins de problèmes de santé mentale que les autres. On va voir, il y a des nuances quand on regarde la détresse psychologique, et là aussi, on est dans un facteur de sélection, c'est-à-dire, pour arriver à faire des études universitaires, il faut aussi avoir une certaine, on va dire, des ressources, que si vous êtes en difficulté, c'est pas si facile que ça. Si on regarde l'ancienneté, on voit que aucune différence. Et donc, si on compare, une fois qu'on a tenu compte de tout ça, si on compare le fait d'être un enseignant ou le fait de ne pas être un enseignant, il n'y a aucun risque relatif pour aucun des problèmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne vous dis pas que si on prend la population des enseignants, il n'y a pas plus de problèmes que dans les autres. La question, elle est que dans toutes les... Enfin, bon, moi qui suis épidémiologue, c'est vraiment mon métier. Dans toutes les études, si je prends la dépression, les femmes sont plus déprimées que les hommes. Et les personnes qui sont séparées, veuves ou divorcées, elles sont plus déprimées que les autres. Donc, ça veut dire qu'effectivement, peut-être que vous allez vous retrouver avec plus de prévalence, mais elles ne sont pas dues au fait que c'est des enseignants. Elles sont dues peut-être au profil de la population qui va, entre guillemets, sur-sélectionner ce genre de population. Alors, après, on peut discuter sérieusement que... Peut-être que le fait d'être un enseignant fait que quand on est divorcé, on a plus tendance à ne pas se marier, parce que peut-être c'est un milieu plus féminin que d'autres métiers. En tous les cas, on peut dire qu'il y aurait une interaction au niveau structurel. Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne semble pas que le fait d'enseigner devant élèves soit lié en tant que tel aux différents problèmes de santé mentale qui sont là. Alors là, c'est les problèmes de l'anxiété, et là, c'est les problèmes avec l'alcool. Donc, je peux comparer un petit peu en ce qui concerne les problèmes avec l'alcool, mais on voit que les facteurs, par contre, en ce qui concerne l'alcool, si on prend la EFTAM et les problèmes d'anxiété, on voit que c'est plutôt les personnes les plus âgées qui en souffrent. On voit que, bien entendu, en ce qui concerne l'alcool, le risque est inversé, c'est-à-dire que les femmes ont plus de problèmes de dépression et d'anxiété, et les hommes plus de problèmes d'alcool. Ça, je pense que ça ne vous avait pas échappé. Quand on compare les maladies mentales entre les hommes et les femmes, bon, au finish, on est égaux. C'est juste que les hommes, ils ont plus de problèmes avec l'alcool, plus de problèmes avec la drogue, plus ce qu'on appelle de personnalité antisociale. Il y en a plus dans les prisons. Et puis, les femmes, elles sont plutôt du côté de l'anxiété, de la dépression. Et ça, on vient de faire une enquête en population... des écoles primaires, on voit déjà très jeunes, les troubles extériorisés sont plus fréquents chez les garçons, les troubles intériorisés sont plus fréquents chez les femmes, bon, c'est un autre sujet. Donc voilà déjà un premier type de résultat. Alors une autre chose qui est assez paradoxale, c'est que, alors que les enseignants sont très inquiets pour leur santé mentale, ils n'ont pas l'air d'être trop inquiets pour leur santé physique, et nous, on a trouvé des facteurs de risque de santé physique, des, entre guillemets, on va dire, des maladies professionnelles. C'est-à-dire que si on prend, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, alors là, malheureusement, mon transparent est un peu décalé, mais si vous prenez rhinopharyngite, laryngite, si vous prenez eczéma, si vous prenez conjonctivite, si vous prenez maladie urinaire, si vous prenez cystite, vous voyez que les gens qui sont enseignants devant élèves ont des prévalences plus élevées que ceux qui ne sont pas enseignants devant élèves. Alors évidemment, je veux dire, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la littérature internationale là-dessus, en particulier sur le fait que, ben, étant exposés à une population d'enfants, ils ont bien plus de chances d'attraper des maladies infectieuses. Bon, on a aussi des questions sur les problèmes avec la voix dans notre nouvelle... Dans notre nouvelle enquête qu'on n'avait pas là, bon, ben, les enseignants ont des problèmes de voix, les enseignants ont des problèmes, entre guillemets, d'infection urinaire, parce que ben, quand vous faites cours, vous ne pouvez pas vraiment vous absenter si tout à coup vous avez une urgence de ce côté-là. Et puis, bon, ce qui est dit dans la littérature, c'est que les toilettes sont peinturées nickel-chrome, en tout cas. Donc, il y a de la littérature, il y a d'autres gens que nous qui ont trouvé ce genre de facteurs de risque. Donc, vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'au fond, bah, si on regarde les problèmes de santé mentale pour différentes raisons dont je vous ai expliqué, on n'en trouve pas tellement plus. Mais si on regarde les problèmes de santé physique, par contre, il y a incontestablement des problèmes de surmorbidité. Alors maintenant, on va essayer de comparer les choses entre les enseignants, parce que, comme je vous ai dit, quand on dit enseignant, on a vite très large. Donc ça, c'est les hommes, ça, c'est les femmes. Ça veut dire que c'est très significatif comme différence, et je vais la commenter très brièvement. Donc, si on regarde, par exemple, n'importe quel problème de santé mentale sur toute la vie, quand on regarde à l'intérieur de la population masculine, on voit que, alors que la moyenne, on va dire, est à 30% sur la vie, on voit qu'en ce qui concerne les personnes qui sont dans l'enseignement dit spécialisé, donc avec des populations particulièrement fragiles, chez les hommes, il y a une prévalence beaucoup plus élevée dans ces populations-là que, par exemple, ceux qui sont dans les lycées. On voit que les hommes qui sont en maternelle, et ça on l'avait déjà remarqué dans d'autres études, semblent avoir plus de problèmes de santé mentale que les hommes qui sont dans, par exemple, dans les autres circuits comme le lycée. Donc c'est intéressant de voir qu'en ce qui concerne les hommes, les populations à risque, c'est l'éducation spécialisée et les maternelles, et les populations les moins à risque, c'est le lycée, et puis bien entendu l'université. Si on regarde les femmes, ça ne se passe pas de la même façon. C'est d'ailleurs uniquement dans les troubles sur un an qu'on trouve des différences, et les populations à risque ne sont pas les mêmes. Et assez étrangement, en ce qui concerne les femmes, la population la plus à risque, c'est le lycée. Par contre, les classes maternelles ne sont pas du tout à risque et éventuellement l'université. Et on va voir, j'ai d'autres données là-dessus. Et j'avais déjà trouvé d'ailleurs en 86 des données comme ça. Les femmes qui sont dans des milieux universitaires ont... Soit elles ont plus de difficultés, soit elles sont plus fragiles. En tout cas, on voit des indicateurs dans ce sens. Alors ça, c'est la détresse psychologique, donc ce n'est pas vraiment une maladie. C'est intéressant de voir que vous avez en bas les hommes, en haut les femmes. Les femmes ont toujours des niveaux de détresse psychologique qui sont plus élevés. Et si vous regardez les femmes, ici, ce sont les enseignantes d'université. Donc on voit que c'est une population qui, techniquement, devrait aller mieux. Et en fait, ce n'est pas sûr qu'elle aille si mieux que ça. Alors que si on prend les hommes, la courbe est très différente. On voit que on retrouve au niveau de la détresse psychologique ce qu'on a trouvé au niveau des diagnostics. C'est plutôt les enseignants de maternelle, alors que les enseignants au niveau de l'université n'ont pas des niveaux élevés. Et que là, c'est le lycée, donc on voit qu'il n'y a pas de niveau élevé. Alors bon, là, je vais peut-être passer un peu vite. C'est la même idée, c'est-à-dire on regarde aussi après qu'est-ce qui est dû aux différents facteurs. Alors, les facteurs de risque. Bon, si on regarde, par exemple, les inconvénients redoutés dans la profession, suivant qu'on est un enseignant ou pas un enseignant, on voit que y a des facteurs qui sont plus redoutés par les enseignants et d'autres qui sont plus redoutés, on va dire, par les non-enseignants, qui est notre groupe contrôle. On voit la fatigue, le sentiment d'impuissance, la responsabilité morale, les conflits, les agressions verbales, les agressions physiques, la responsabilité, la non-reconnaissance, on voit que là, mais par contre, les non-enseignants, ils redoutent plus la routine et l'ennui, les accidents professionnels, les maladies physiques, les risques matériels. Donc on voit bien qu'effectivement, chaque population, entre guillemets, a ses avantages et ses inconvénients. Alors ça, c'est un sujet qui est très actuel, qui est le redouter des agressions physiques et verbales par type d'enseignant et par sexe. Donc vous avez chaque fois enseignant, non-enseignant. Vous avez donc d'abord d'une façon générale, donc on voit que les femmes enseignantes redoutent plus les agressions que les femmes non enseignantes. Puis après, vous voyez comment ça va. Vous avez collège-lycée, vous avez ensuite primaire, et vous avez supérieur, et vous avez les non enseignants. Donc ici, c'est les agressions physiques, ici, c'est les agressions verbales. Donc ici, vous avez le primaire, le secondaire et le supérieur. Et ici, vous avez le primaire, le secondaire et le supérieur. Donc, si vous prenez les agressions verbales, vous voyez que dans le secondaire, plus de 50% des femmes disent qu'elles redoutent les agressions verbales. Mais enfin, pour les hommes, c'est 42%. Donc, c'est très élevé. Si vous prenez les agressions physiques, on va dire que à peu près un enseignant sur cinq redoute les agressions physiques, ce qui est quand même un chiffre non négligeable. On voit que ça existe le plus, évidemment, dans le secondaire, mais primaire et supérieur, ça existe aussi. Alors ça, c'est la courbe avec le temps passé, qui est, je trouve, assez intéressante. C'est-à-dire on voit que, finalement, les personnes qui redoutent le plus les agressions physiques et verbales, c'est les premières années. Ça, c'est, vous voyez, ça, c'est les années d'ancienneté. Donc là, on vient d'arriver dans la profession jusqu'à 35 ans et plus. Alors la courbe a une petite tendance à nous faire comme ça, en tout cas pour les femmes. Donc on dirait que, en fait, ça a l'air de s'améliorer, et puis ensuite ça remonte un petit peu. Alors ça, c'est le cas pour les femmes, c'est pas le cas pour les hommes. Donc là, on est dans les agressions verbales, et là on est dans les agressions physiques où on va dire d'abord ça descend et ensuite ça stabilise. À vrai dire, la partie la plus intéressante de la courbe, elle est là. Elle montre que, de toute façon, même les non-enseignants ont peur aussi des agressions physiques et verbales, dans un degré moindre, mais en ont peur. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va dire après 10 ans passés dans l'enseignement, apparemment, les gens ont moins peur. Alors ça, c'est une autre façon de regarder les facteurs de risque qui, moi, je trouve très intéressante. C'est alors un certain nombre de facteurs de risque ou protecteurs. Donc ça, c'est par exemple, on demande aux gens, est-ce que vous trouvez que le support de vos collègues est satisfaisant? Et là, ce que ça montre, c'est que si je regarde, par exemple, le fait d'avoir un problème de santé mentale, que ce soit sur toute la vie ou un an, les personnes qui nous disent que le support de leurs collègues est inadéquat ont, entre guillemets, une chance statistique d'avoir un problème de santé mentale qui est multiplié par 1,7, ce qui est loin d'être négligeable. Alors après, c'est le problème de l'œuf et la poule. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, qu'ils ont du mal à avoir des relations avec leurs collègues, ou que justement ils ne sont pas en confiance? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des difficultés avec... Vous voyez, là je ne peux pas vous le dire, on est dans une étude transversale et je mesure les deux choses au même moment. Mais ce qui est sûr, c'est que là on voit quelque chose qui s'allume, c'est-à-dire difficultés de relations avec les collègues, ça veut dire plus de risques d'être dans la catégorie des diagnostics. Par contre, quand l'enseignant... Alors, autre chose très intéressante, c'est les raisons du choix de la profession. Quand l'enseignant considère qu'il a choisi sa profession par vocation, quel que soit ce qu'on met derrière ce mot, si ce n'est pas par vocation, ses chances d'avoir un problème de santé mentale sont plus élevées. Donc, le fait de choisir ce métier par vocation, entre guillemets, protecteur, par intérêt moins, ça, c'est la peur de l'agression physique. On voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de l'agression physique, il n'y a pas de relation, mais la peur de l'agression verbale, c'est aussi lié avec la fréquence des problèmes de santé mentale. Alors après, c'est toujours pareil, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur? Est-ce que c'est parce qu'ils sont particulièrement fragiles qu'ils ont plus peur? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'ils sont fragiles? Après, c'est les limites des études de ce genre, on fait une coupe transversale, on ne sait pas. Alors maintenant, donc, je vais terminer sur l'épuisement professionnel. Donc, on a trouvé un livre complet qui est dédié au burn-out chez les enseignants, qui est un livre extrêmement intéressant, dont plusieurs chapitres sont faits par des scientifiques anglais et américains. Et si on regarde généralement les facteurs étudiés dans l'étude du burn-out chez les enseignants, voilà à peu près les facteurs. Hein. C'est soit des facteurs personnels, le sexe, l'âge, le statut matrimonial, le type d'enseignement, des facteurs organisationnels, les conflits de rôle, l'ambiguïté de rôle, la surcharge de travail, l'ambiance de la classe, la possibilité de décider, le support social, tant de l'administration, des directeurs que des pairs, et puis des facteurs de personnalité, l'estime de soi certainement, puis un facteur de personnalité qu'on appelle nous le contrôle, c'est-à-dire il y a des gens, ils ont l'impression qu'ils sont un fétu de paille et que la vie les manipule au gré des flots, et il y a des gens qui ont l'impression que c'est eux qui ont le volant, si je puis dire, et qu'ils prennent les décisions sur, la vie qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle le contrôle externe versus interne. Donc tous ces facteurs-là ont été étudiés dans les mesures de burn-out. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de burn-out ou de syndrome d'épuisement professionnel dont vous avez certainement entendu parler? Bon, alors, ce qui est assez cocasse, c'est que le burn-out vient d'une image inspirée de l'industrie aérospatiale. C'est la situation d'une fusée dont l'épuisement de carburant a pour résultat la surchauffe et le risque brain machine. Donc, quand on pense que c'est appliqué à l'épuisement professionnel, ça laisse rêveur. Donc, le burn-out a fait son apparition dans les années 70 aux États-Unis et, en fait, au début, il a été décrit dans le monde des soignants. Donc, c'est un syndrome multifactoriel et pluridisensionnel. Il y a des symptômes cliniques, des symptômes somatiques, des comportements variés qui n'ont rien de vraiment spécifique. Mais en fait, le burn-out a été décrit, vous voyez, les infirmiers qui traitent leurs patients un peu comme des objets parce qu'ils n'en peuvent plus, ou les gens qui travaillent avec des handicapés, enfin, vous voyez, qui à un moment donné ont plus le feu sacré, ne supportent plus et se mettent éventuellement même à faire des fautes professionnelles. Donc la mesure du burn-out est assez bien codifiée. En fait, le principal instrument de mesure, c'est le MASLASH Burnout Inventory, qui en fait se décline en trois dimensions, l'épuisement émotionnel, la déshumanisation de la relation à l'autre et la perte du sens de l'accomplissement de soi au travail. Donc c'est le second critère en fait qui est le plus spécifique, qui est la déshumanisation de la relation à l'autre. C'est donc la pierre de touche du syndrome professionnel des soignants. C'est en positionnant la relation à l'autre au centre du burn-out que ce dernier acquiert toute sa spécificité. C'est-à-dire en fait le burn-out, il a été décrit essentiellement dans les professions d'aide. Donc c'est un des aspects, au fond on pourrait dire pour le résumer, au départ c'était un aspect de la pathologie dans la relation d'aide. Alors, est-ce qu'on peut l'adapter, c'est ça mon titre, hein, c'est est-ce qu'on peut l'adapter aux enseignants? Alors, on a trouvé, ça va peut-être vous faire rigoler, on a trouvé une publication internationale dans le British Journal of Education Psychology qui vient de Hong Kong. Donc, en fait, la personne qui a adapté le burn-out aux enseignants, c'est quelqu'un qui a fait une étude à Hong Kong qui est relativement récente. Donc, je vous ai mis les différentes données. Donc, voilà, par exemple, la dimension épuisement émotionnel, c'est vous vous êtes senti émotionnellement épuisé par l'activité d'enseignement, vous êtes senti usé à la fin de la journée, fatigué au réveil, surmené par le travail parce que vous travaillez face à des personnes toute la journée, etc., etc. Vous avez eu le sentiment de travailler trop dur, vous vous êtes senti stressé par la confrontation directe, vous vous êtes senti au bout du rouleau. Alors la déshumanisation, c'est vous avez eu le sentiment de traiter les élèves comme des objets impersonnels, vous êtes devenu insensible aux personnes, a peur de s'étendre aussi émotionnellement du fait du travail, ne s'est plus préoccupé de ce qui arrive aux élèves, a ressenti des reproches de la part des élèves, après la perte du sens de l'accomplissement de soi au travail, a compris facilement les sentiments des élèves, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est tout, au fond, avant c'était soignant, et lui il a remplacé soignant par élève, grosso modo, élève ou étudiant, enfin bon, puis il y en a, il n'y a pas besoin, sentier énergique, il n'a pas touché. Alors après, moi, je ne suis pas en train de vous dire que cet instrument, c'est la pierre philosophale et que c'est tellement extraordinaire, mais bon, concrètement, quand on fait la littérature, qu'on mesure l'épuisement professionnel, c'est ça qui est utilisé. Alors, il y a peu d'études qui ont comparé les différents niveaux de burn-out avec différentes professions. C'est ce que je vous ai dit, on a très rarement des groupes contrôle, donc la plupart des gens, ils se disent qu'ils sont très stressés, mais on ne sait pas s'ils sont plus ou moins stressés que les autres. Alors, la seule étude qu'on a trouvée, qui est dans ce livre d'ailleurs, Burnout and Teachers, a été faite... en Hollande, c'est une annonce qui a été mise dans un journal et on a demandé aux gens s'ils étaient prêts à répondre à un questionnaire. Donc, bon, nous, en tant qu'épidémiologues, les volontaires, on n'aime pas trop ça parce que c'est pas tiré au sort, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, quand même, ils nous ont comparé des enseignants, des cadres, des psychothérapeutes, des médecins et dentistes, des infirmières et, enfin, c'est pas vraiment travail de maison, c'est aide ménagère. Bon, c'est le problème des traductions. Alors voilà, bah, les différentes dimensions, vous avez séparé les hommes et les femmes, donc prenons par exemple les femmes, vous voyez l'enseignant, épuisement émotionnel, il est à 2,8, le psychothérapeute il est à 2,77, les infirmières elles sont à 2,6, enfin on n'est pas du simple double. Si on prend la dépersonnalisation, on voit pareil, vous êtes ici à 1,15, ici vous êtes à 1,2, ici vous êtes à 1,2, si vous prenez l'accomplissement, c'est, vous voyez, les différences ne sont pas énormes. Donc on voit que quand on commence à comparer le burn-out dans les différentes professions, les différences sont pas énormes. Donc là, je vais terminer sur cette enquête MGEN INRP. Donc là, c'est les résultats qu'on a trouvés sur épuisement, donc sur cette fameuse échelle de burn-out adaptée aux enseignants. Donc, comme je vous ai dit, on a environ 150 enseignants, donc c'est pas beaucoup. Donc là, on peut comparer collège et lycée. Donc vous voyez que là, le P est pas il n'est pas présent, ce qui veut dire qu'on n'a aucune différence significative. Donc qu'il s'agisse de l'épuisement émotionnel, de la déshumanisation de la relation à l'autre, de la perte de l'accomplissement de soi, suivant qu'on est au collège ou au lycée, on n'a pas trouvé de différence, qu'on est en zone difficile ou pas en zone difficile, on n'a pas trouvé de différence, qu'on a choisi le métier pour la vocation ou pas la vocation, on n'a pas trouvé de différence. Par contre, on a trouvé une différence... en fonction du fait que les gens souffraient d'une dépression clinique ou pas. C'est assez intéressant parce qu'il y a une interaction, comme on dit dans notre jargon, ça concerne les hommes, ça ne concerne pas les femmes, et ça ne concerne qu'une dimension, c'est la déshumanisation par rapport aux autres. Donc si on prend l'épuisement émotionnel, il n'y a pas de différence, mais par contre, si on prend la déshumanisation, on voit que les hommes qui sont déprimés ont des niveaux de déshumanisation, entre guillemets, de mise à distance, on va dire ça en jargon peut-être plus intelligible, très différents, alors que ce n'est pas le cas des femmes. Et pour la perte de l'accomplissement personnel, on ne trouve pas de différence non plus. Donc là, on trouve quelque chose qui serait intéressant de valider, c'est que quand les hommes sont déprimés, entre guillemets, leur mécanisme de défense, c'est vraiment... de désinvestir les élèves, alors que ce même mécanisme-là n'a pas l'air d'être en jeu chez les femmes. Alors l'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les corrélations entre une échelle de détresse psychologique et le burn-out, et on voit que c'est très corrélé, parce qu'évidemment, quand vous regardez l'épuisement émotionnel, bon, que disent les échelles de détresse psychologique? Elles disent pratiquement la même chose. En fait, la seule différence entre l'épuisement professionnel, l'épuisement émotionnel dans le burn-out et la détresse psychologique, c'est que le burn-out l'attribue au travail. C'est-à-dire, c'est pas « je suis épuisé », c'est « je suis épuisé à cause de mon travail ». C'est pas « je me sens fatigué », c'est « je me sens fatigué parce que je suis sans arrêt face à des élèves ». Donc, si vous voulez, c'est, au fond, c'est une attribution. Mais quand on regarde la corrélation, on voit que, en tous les cas là, elle est extrêmement élevée, alors qu'elle n'existe pas pour l'accomplissement personnel. Donc on voit que c'est quand même pas une superposition pure et simple. Il y a des dimensions comme l'épuisement émotionnel sur lequel, d'ailleurs quand on regarde les questions, c'est pratiquement les mêmes. Et puis il y a des questions comme la perte de l'accomplissement personnel qui sont un peu différentes. Donc je vais conclure sur les motifs du choix. Parce que on a fait un papier là-dessus qu'on a publié, je crois que c'est dans l'encyclopédie médico, dans les annales médico-psychologiques, où justement le titre de notre article c'est le burn-out peut-il être appliqué à l'enseignement. Donc on reprend, c'est pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Je pense que c'est un article assez facile à trouver, et donc on reprend un peu toute la littérature là-dessus, tous les gens qui ont travaillé là-dessus, et on s'est aperçu que le fait d'avoir choisi, enfin les raisons du choix du métier sont quand même assez intéressantes, mais moins simples qu'on pourrait y croire. Alors, quand on prend les enseignants qui ont choisi leur métier par vocation ou intérêt, ils se sentent plus en accord avec leur idéal, ils redoutent moins de faire la classe, ils redoutent moins de ne pas faire parvenir à comprendre ce qu'ils enseignent aux élèves, ils craignent moins la non-reconnaissance de leur travail, ils ont moins le sentiment d'impuissance au travail. Mais par contre, ils redoutent plus la responsabilité morale qu'incombe à leur métier, et ils vivent moins une situation très difficile concernant leur vie professionnelle. Donc, on voit que les gens qui choisissent par vocation, entre guillemets, alors ça c'est l'éternel dilemme de la bonne et mauvaise santé mentale, c'est que si le rêve de votre vie c'est d'être président de la République, vous risquez plus d'être déçu que si le rêve de votre vie c'est d'être technicien de surface. Donc c'est sûr que les risques que vous prenez dans la vie ont à voir avec l'idéal que vous vous mettez. Donc si vous placez par exemple l'idéal de l'enseignant très haut, à la fois il y a des choses contre lesquelles ça vous protège, mais il y a des choses pour lesquelles vous allez peut-être être plus vulnérable. Donc on voit que là, vis-à-vis de la responsabilité morale, les personnes qui ont choisi leur enseignement, l'enseignant par vocation, peut-être que justement, pour eux, c'est extrêmement important de s'occuper des élèves et qu'il y a là quelque chose qui est une fragilité. Si on prend toujours vocation et détresse psychologique, il y a moins d'enseignants. Dans les gens donc qui ont choisi l'enseignement par vocation, il y a moins de détresse psychologique, mais ce qui est étonnant, c'est que ça se vérifie chez les femmes mais pas chez les hommes. Donc on voit que la vocation ou l'intérêt, ça se joue quand même peut-être pas de la même façon suivant les professions. Par contre, parmi les enseignants qui ont choisi la profession par intérêt ou idéal, ce qui est compliqué, c'est on prend d'abord ceux qui ont choisi leur profession par vocation et intérêt. Et ensuite, on leur demande, dans les questionnaires, est-ce que vous vous sentez proche de votre idéal professionnel ? Soit ils se sentent proches de leur idéal professionnel et ça les protège, soit ils se sentent loin de leur idéal professionnel et ça devient un facteur de risque. Donc c'est assez intéressant de voir comment effectivement il y a des interactions assez complexes, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, si vous mettez l'enseignement comme un métier exigeant que vous avez choisi par vocation et que vous vous sentez décalé par rapport à ça, vos risques d'être en détresse psychologique sont plus grands que finalement si c'est un métier que vous avez choisi entre guillemets comme un autre. Donc pour conclure, je pense que oui, le burn-out peut s'appliquer aux enseignants. C'est une détresse psychologique qui est attribuée au travail dans le contexte d'une profession. C'est une sorte de mécanisme de défense. On peut dire que le burn-out, vous voyez, cette espèce de dépersonnalisation qui est de se mettre à traiter les élèves comme des objets, de plus s'impliquer. Nous, dans notre jargon psychiatrique, on va appeler ça un mécanisme de défense, qui est une mise à distance. Qui peut-être marche pas si mal que ça, puisqu'au fond, on ne trouve pas plus de morbidité psychiatrique chez les enseignants que chez les autres. Je pense que c'est important de mieux saisir que ce que je vous ai montré, ce phénomène qui est complexe, d'une part par des études qualitatives qui vont être vous présentées maintenant, et puis on a beaucoup d'espoir dans la cohorte qu'on vient de mettre en place, parce que là, on mesure beaucoup de dimensions, puis on va suivre les gens au fur et à mesure, donc on va peut-être voir justement quels sont les facteurs de risque qui, en fonction du passage à travers la carrière, qui vont se profiler comme étant peut-être en préfiguration d'un épuisement professionnel ou d'un problème de santé mentale.